sur les ondes de Boulevard 102.1 en espérant que vous ayez passé un bon début de journée. On va certainement passer un bon début de soirée puisque ce soir, j'ai encore un invité qui est franchement intéressant. Puis pour amorcer le week-end, mais je trouve que c'est le type de sujet qui est le fun à jaser un vendredi soir. C'est un spécialiste en communication. Je vous le présente tout de suite. Son nom, c'est André Hamilton. Monsieur Hamilton, bonsoir.
Ben bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien pour les besoins de la cause. Je vais vous tutoyer. Est-ce que vous me permettez?
Ben oui, absolument.
André Hamilton est un spécialiste en communication, mais c'est aussi un artiste. C'est un gars qui a roulé longtemps sa bosse dans le merveilleux monde artistique. Avant de parler de communication et tout ça, parlez-moi un peu de vous, M. Hamilton. Je sais que vous avez étudié à l'Université Laval à Québec. Est-ce que vous êtes un gars de Québec aussi?
Non, moi, on peut dire un petit gars de Bécomo.
Un gars de Bécomo?
Oui, donc c'est ça, j'ai eu la grande chance d'étudier à l'Université Laval en communication, en cinéma, en communication publique. Puis après, ben c'est ça, je suis arrivé ici à Montréal en 93.
En 93. Puis pendant vos 4 ans à Québec, bon, vous faisiez votre bac en com, mais vous aviez option cinéma?
Oui, parce que... Je pense que la première chronique, la première petite critique de cinéma que j'ai écrite, c'est, je pense, que j'avais 14 ans. J'ai toujours rêvé de travailler en cinéma ou en télévision, communication et tout ça.
Ouais.
Donc, un de mes premiers métiers à Bécomo, j'étais projectionniste au cinéma de Bécomo.
Mais ça, c'était un job de rêve pour un gars comme vous, là?
Oui! Absolument. Un métier qui n'existe plus, hein. Ça fait un peu bizarre, là.
Puis c'est tellement triste parce que quand on regardait des vieux films, souvent, dans leurs histoires, ils incluaient comme la personne qui projetait l'image directement sur l'écran. Puis on avait accès à cette grosse bobine-là. C'était comme mystérieux comme ambiance. On savait jamais ce que ces gens-là pouvaient faire dans cette petite pièce-là. On se disait, ben, écoutes-tu vraiment les films, comment ils remplacent les bobines, puis c'est à cause de lui, des fois, qu'on avait une intermission, parce que souvenez-vous, ben, en tout cas, vous devez vous en souvenir, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, t'sais, nous, on écoute des films en continu maintenant, mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, d'avoir vu des films où la bobine arrêtait, fallait attendre un certain moment, puis là, le film repartait.
Oui, ou ça brûlait. Ça m'est déjà... Tu sais, la pellicule arrêtait puis ça brûlait. Hein, ça faisait des taches vraiment à l'écran. Là.
Mais ça, pendant que vous étiez à Bécomo, c'était ça. Le film est coupé en deux, c'est ça?
Ben c'est que... C'est intéressant. Parce que le film est arrivé en plusieurs bobines. 5 ou 6 bobines dépendant de la longueur du film. Et nous, notre travail, c'était de recoller ça et de le mettre sur une plus grande bobine.
OK, je comprends.
Et en même temps, la pellicule souvent était déchirée, donc on coupait. C'est pour ça que des fois, là, quand on écoutait un film au cinéma, puis c'était un film qui avait peut-être, ça faisait longtemps qu'il était à l'affiche, avec les éraflures et tout ça, puis des fois, ça sautait un petit peu.
Ouais.
C'est parce qu'il y avait un long bout de pellicule peut-être qui était vraiment brisé, puis qu'on a été obligé de couper, puis de recoller. C'était un beau métier, ça.
Ouais. Mais c'était cruel en même temps. Quand la bobine brisait à l'endroit où il y avait comme le point culminant du film, de couper, ça devait être... ça devait pas être une belle journée pour les propriétaires du cinéma, là.
Ouais, ben, on parle d'une seconde ou deux, là, mais c'est ça. Non, mais c'est un beau métier. Ça, je l'ai fait aussi au cégep là, de Bécomo. J'étais projectionniste là aussi.
Ah, c'est le fun. Puis là, vous êtes arrivé à Québec en communication à l'Université Laval. Vous avez pris option cinéma. Est-ce que vous avez travaillé en cinéma aussi?
Ah, ben oui, ben, surtout en arrivant à Montréal en 93. Début de Musique Plus, hein?
Oui.
On fait plein de clips vidéo, c'est la grande mode. Et moi, je me rappelle, j'étais arrivé quoi, un mardi ou un mercredi, j'étais un gars qui est proactif. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, je vais appeler les boîtes de prod, puis tu sais, pour faire n'importe quoi, passer un coup de balai, n'importe quoi. Puis le vendredi de la même semaine, je me retrouvais sur un plateau de vidéoclip. Je pense que c'était Martine Sinclair cette fois-là.
Moi, je me souviens juste de « Video Kill the Radio Star ». C'est à cause de vous! C'est à cause de vous qu'on n'est plus des stars! Parce que vous faisiez des vidéoclips. Donc, vous êtes arrivé très rapidement dans le merveilleux monde du cinéma. Bon, vous avez commencé avec les vidéoclips. Vous avez travaillé avec Martine Sinclair au début.
Ben, c'est dans le fond, sur le plateau de Martine Sinclair, okay. Rock voisine et tout ça, et Céline Dion aussi. C'était vraiment des belles expériences, ça, je veux dire. Ça, c'était un peu spécial, Céline Dion, parce que je me rappelle, on m'a appelé et on me disait, bon, demain, il y a un tournage à tel endroit.
Ouais.
Et moi, dans ce temps-là, parce que moi, je suis un ancien DJ, et à fin du compte, tu sais, j'avais monté j'avais un peu gradé dans les métiers du cinéma. Je suis passé d'assistant de prod, puis là, je m'occupais du playback, tu sais, pour que m'occupais de la musique pour que les paroles arrivent avec la personne qui chante.
Okay.
Donc, je m'occupais de la musique et tout ça. Puis d'habitude, on me disait, bon, ben ça va être telle chanson, ta, ta, ta. Donc, je pouvais me préparer un peu. Bon, donc, mais là, on dit, oh, on peut pas dire c'est qui l'artiste. On te donne l'endroit. Je pense que j'ai eu l'adresse une heure avant seulement ou deux heures avant. Donc, j'arrive là, on ne sait pas c'est qui, je me prépare, je mets à la dernière seconde, on me donne le CD. Puis, il y avait un monsieur à côté de moi, et puis ça, c'est vrai, hein. Il y avait un monsieur à côté de moi, un peu plus âgé, qui était là, assis à côté de moi. Puis, j'étais là, il me semble qu'il me dit quelque chose, ce monsieur-là, tu sais. Je continue, je reçois le disque, et en même temps, la chanteuse arrive, et c'était Céline Dion. Puis c'était René Angelil qui était assis à côté de moi.
Qui était à côté de vous, mais vous ne l'aviez pas reconnu au départ.
Non, non, c'était vraiment trippant, ça. C'était des belles expériences, ça. Vidéoclip et tout ça, là, j'en ai fait quoi? J'ai travaillé sur une douzaine.
Mais Céline Dion, est-ce que quand vous l'avez rencontrée, bon, elle devait être encore très jeune, elle n'était pas à son apogée, là?
Ça, c'était l'album 2.
OK.
C'est de comment il s'appelait? Jean-Jacques Goldman et tout ça. Là,
OK, donc sa carrière était déjà très bien entamée. Okay.
Ah oui, absolument.
Parce que vous avez parlé de Rock Voisine. Rock Voisine, tu sais, aujourd'hui, oui. on en parle des fois avec les plus jeunes à la station, puis pour eux, Rock Voisine, c'est quelqu'un qui est dépassé, tout ça. Mais moi, je me souviens que Rock Voisine, les filles perdaient connaissance. Dès qu'ils le voyaient, c'était comme Michel Louvain pour les gens de la plus vieille génération. Tu sais, quand ces gens-là arrivaient à l'écran, les filles perdaient connaissance. Et qu'il n'était plus capable de se contenir. Aujourd'hui, Rock Voisine, bon, c'est encore un bon artiste. Je ne sais pas s'il fait encore des chansons, mais je veux dire, ces gens-là ont eu des carrières extraordinaires, là, au départ, du moins. Là.
Absolument. Je veux dire, c'était des grandes vedettes, là, Rock Voisine. C'était quelque chose. Ça aussi, c'était secret. Hein. C'est, on était parce qu'il ne voulait pas avoir trop de fans, comme tu dis, là. C'était. Puis ça, c'était drôle parce que. J'ai vraiment pas la même carrure que Rock Voisine, parce que c'est un joueur de hockey aussi, oui. Rock Voisine, tu sais, c'est... Puis on me prenait comme stand-in, donc ça veut dire qu'on me plaçait dans le décor juste pour préparer l'éclairage en attendant que...
Vous étiez son cascadeur pour les tests.
Ouais, ben il y avait pas beaucoup de cascades, mais oui.
Ben moi, c'est vraiment si j'ai à raconter cette histoire-là, je vais devenir un héros. J'étais un cascadeur pour Rock Voisine. C'est moi qui s'assurais que tous les équipements étaient sécuritaires et tout ça. Moi, j'en profiterais si j'étais vous.
Ah, OK. La prochaine fois.
Donc, il y avait Rock Voisine, il y avait Céline Dion, puis il y avait aussi Martine Sinclair. Mais vous êtes arrivé très rapidement, vous avez bénéficié. Est-ce que c'était une opportunité qui s'ouvrait que très rarement quand vous êtes passé par cette porte-là? Ou dans le temps, c'était comme ça, on appelait les boîtes de production, puis on travaillait très rapidement?
Oh non, c'était assez facile dans le temps. Je veux dire, tu sais, j'avais fait un petit peu de court-métrage... à l'université avec des chums puis tout ça, on avait un petit peu d'expérience, on savait un peu, c'est la technique, les mots techniques, c'est quoi, etc. Mais c'était facile. Je veux dire, t'appelais les boîtes, puis il y avait un grand besoin de personnel aussi. Donc, t'appelais les boîtes, puis tu rentrais comme ça. Non, c'était... Puis les hasards aussi, hein? C'est le timing, tu sais, t'appelles au bon moment, etc. Tu sais, j'ai travaillé à Téléfilm Canada comme analyste de films. Puis, je me rappelle, j'ai appelé, puis je suis tombé sur la bonne personne. Puis elle m'a dit, ah ben ça tombe bien parce qu'on a plus de 40 scénarios à lire et à analyser. Puis on cherche des gens. Puis c'est comme ça, là. C'est souvent, c'est comme ça.
Ouais, je comprends, M. Hamilton, mais moi, j'aime beaucoup tirer des leçons des fois des invités que je reçois chaque soir. Puis je peux faire un parallèle avec le monde de la radio. Tu sais, quand j'étais jeune, le monde de la radio, pour nous, c'était un monde qui était inaccessible. Et à un moment donné, ben, quand j'ai fini l'école, je me suis dit, OK, bon, là, j'ai obtenu mes diplômes scolaires, j'ai été jusque où je voulais aller, j'ai étudié dans les domaines où je voulais. Là, la radio, pour moi, c'est un domaine qui m'a toujours attiré. J'écoutais la radio quand j'étais très jeune. Il y avait des Marc Simoneau, des André Arthur, il y avait des Jeff Filion quand j'étais un petit peu plus vieux. C'était du monde qui brassait, puis je me disais, c'est un monde qui doit être difficilement accessible. Et tout d'un coup, j'ai vu une annonce d'une école de radio qui s'appelle le Collège Radio-Télévision de Québec. Je suis arrivé avec mon CV en disant, voici les domaines dans lesquels j'ai étudié. Moi, j'aimerais apprendre à raconter des histoires à la radio, faire de la radio et tout ça. C'est-tu possible? Puis j'ai embarqué dans un cursus scolaire d'à peu près 8 mois où on faisait des émissions de radio à tous les jours. Puis tout en étant à l'école pendant ces 8 mois-là, j'y croyais toujours pas qu'un jour j'allais être capable de faire carrière à la radio parce que, à mes yeux, à moi, c'était un monde qui était inaccessible. Puis à un moment donné, j'ai passé un appel. Dans une station de radio à Québec qui était hyper importante, qui l'est encore toujours. J'ai dit, bon, je peux-tu parler avec un tel? Je m'étais informé à qui était responsable des embauches. Puis il a dit, bien oui, viens me rencontrer, ça va m'intéresser sûrement. Je suis allé le rencontrer, puis j'ai été embauché la journée même. Alors que j'ai toujours pensé que c'était inaccessible, M. Hamilton. Fait que votre
Ben
histoire
oui.
de prendre les devants, même si les gens disent, hey Marc, hey André, c'est inaccessible ce monde-là, vous le saviez pas, vous avez fait des appels. Puis vous
C'est
avez
ça.
eu votre belle étoile. C'est OK, André, viens nous voir pour
Ouais.
votre rencontrer.
Ben oui, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, on a peut-être un petit peu de naïveté là-dedans,
Mais ça a
mais tu sais,
fonctionné.
ben oui, puis tu sais, il n'y a pas grand, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont prendre le téléphone, qui vont appeler telle ou telle personne, puis qui s'essayent, puis ça, je veux dire, toute ma carrière, c'était comme ça, moi. Tu sais, à un moment donné, là, la télé, je trouvais la cinéma, j'avais fait le tour, puis je disais, ah, je vais essayer autre chose, puis. Et le hasard de la vie aussi, hein, quand, tu sais, on travaille aussi, on travaille fort quand même. Tu sais, je veux dire, on est professionnel, on travaille bien, mais on s'essaie aussi. Puis c'est le droit à l'erreur aussi, puis peut-être que ça va fonctionner ou pas, hein. On s'essaye.
Ouais.
Il faut s'essayer.
Vous avez travaillé à la classification des films, c'est ça?
Non, c'est analyste de films, entre autres, comme à Téléfilm Canada. C'est Téléfilm, c'est eux qui donnent l'argent, hein, pour
Ouais.
produire les films.
Ouais.
Donc, ils reçoivent les scénarios. Donc, si on va analyser la qualité du scénario, c'est la structure, les personnages, et ça, etc. Et là aussi, dans ce processus-là, ben, on rencontre les équipes de production. Donc, tu as le réalisateur devant toi, le scénariste, le producteur, puis des fois la vedette, qui, tu sais, là, tu leur dis, ben ça, c'est peut-être, ça pourrait être peut-être meilleur ou ça. Puis là, on échange pour que qu'ils puissent avoir le meilleur scénario pour avoir le budget pour faire le film.
C'est quand même un
C'est
grand pouvoir, là.
ben oui, puis c'est je veux dire franchement que au début, c'était un peu gênant. C'est, je veux dire, t'as un régent tremblé en face de toi, puis tu dis, ben, tu sais,
Ouais,
ça, c'est...
j'ai lu ton scénario, Monsieur Tremblay, puis moi, je changerais telle, telle affaire, puis si vous changez ça, ça se peut que vous ayez les subventions possibles.
Ben, tu sais, je veux dire, on est là pour améliorer, tu sais, je veux dire, on est là pour peaufiner, puis souvent, un œil extérieur, c'est bénéfique, hein.
Ouais.
Mais c'est une belle école aussi, puis je l'ai faite aussi en développement pour d'autres boîtes, tu sais, lire les scénarios, puis donner un œil critique
Ouais. Parce que pour
ou
vous,
faire de
M.
la
Hamilton,
recherche, tout ça.
pour vous, M. Hamilton, quand vous faites ce type de métier-là, puis vous rencontrez un Régent Tremblay, comme vous m'avez mentionné, tu sais, ça prend du guts là, pour faire face à un Régent Tremblay, puis lui dire qu'il y a quelques modifications possibles pour que son scénario soit mieux. Je comprends l'œil extérieur, mais pour eux qui ont connu du succès avant de vous rencontrer, doivent se dire, sacrifice, c'est une petite dose d'humilité là que j'ai là d'être obligé de changer mon scénario. Ça devait pas toujours être facile. Puis les conversations aussi avec ces gens-là, bon, c'est des monsieur et des madames là qui ont bien réussi. Ça devait pas toujours être évident, là.
Non, 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 ben c'est certain, hein, mais ce qui est le fun aussi dans le temps, c'était la force de l'équipe, parce qu'on n'était jamais seul. Tu sais, je veux dire, il y avait un autre analyste, Puis, tu sais que c'était le fun aussi parce que le processus à la fin, quand on analysait tous les scénarios, on était toute une équipe, là. On n'est pas juste une personne, pas juste un seul avis. Parce que c'est un objet artistique quand même, hein?
Ouais, c'est comme ça que vous voyez ça.
C'est ben oui, puis c'est une affaire de goût, puis tout ça, là. Non, mais c'était vraiment intéressant, puis ça m'a amené à plein d'autres trucs après. C'est ça qui est le fun, c'est tout lié, hein. Comme j'ai conçu la série documentaire Les Éboueurs.
Les éboueurs, ouais. Ça, est-ce que c'était avant ou après? Ça, c'est
Après, bien
après.
après, puis ça, c'était un peu rigolo parce que c'était un projet que j'avais déposé chez un producteur qui avait été refusé. Et je pense que c'est 2, 3 ans plus tard que je reçois un appel du producteur, puis il dit, ah ben là, Canal D sont intéressés, est-ce que ça te dit de le mettre à jour? Parce que là, il y avait eu beaucoup de changements, là. Les personnes que j'avais déjà contactées, c'était plus. Il y a un grand, tu sais, il y a un bon taux de roulement, là, chez Les Éboueurs, là. C'était plus la même compagnie. Donc, de recommencer tout ça, de retrouver les bonnes personnes. Parce que c'était. Même en documentaire, c'est du casting, hein? On choisit les bonnes personnes pour qu'ils représentent. Différents types de personnalités pour que ça soit intéressant à l'écran et tout ça.
Même dans les documentaires, vous devez choisir les personnages, puis le plus possible, j'imagine qu'il faut que ce soit différent, qu'il y a une certaine
Ben oui.
personnalité aussi. Il n'y a rien de pire que de présenter une personnalité. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui ça lui tente pas du tout d'être là, tu sais.
Ben oui, parce que oui, il y a un côté authentique, documentaire. Moi, je parle de mon expérience en série, mais je pense que j'ai rencontré 25 ou 30 éboueurs environ.
Il devait penser au départ en vous rencontrant, M. Hamilton, que c'était une joke, là. Hein?
Non, pas vraiment.
Un
Non, mais
documentaire sur ma job.
il était content parce que c'est des gens qui sont fiers de leur travail.
Ouais.
C'est des gens qui travaillent fort, qui sont, tu sais, qu'on veut pas trop voir ou qu'on veut pas trop hein, remarquer.
Ben, en fait, moi, ce qui m'intéressait, parce que moi, j'ai vu cette série-là, ce qui
Oui.
m'intéressait, c'est de voir autre chose que le gars qui passe en face de chez nous puis qui ramasse mes vidanges. Tu sais,
Absolument.
où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur discussion? Tu sais, ils
Ouais.
chialent-tu des fois sur mes vidanges?
Oui.
Ouais, le bon à rien, il
Oui.
a encore mis ces affaires-là dans les poubelles, ça va pas dans les poubelles, maudit bon à rien. Il me chiale-tu des bêtises? Moi, c'est ce qui m'intéressait de savoir, puis
Absolument.
votre série a été exceptionnelle à ce niveau-là, c'est qu'on savait tout de A à Z, là.
Ben oui, c'est ça. Ben, on aime ça, hein, découvrir, comme tu viens de dire, en coulisses. Hein.
Ouais.
Puis les gens, parce que c'est là, ils ont des passions, ils ont des hobbies, etc. Là, c'est ça qui est intéressant. Il y avait une dame qui conduisait le camion, puis c'était son fils qui était en arrière, qui lui ramassait les poubelles. T'sais, les relations et tout ça, là, c'est de découvrir tout ça qui est intéressant.
Ouais. Puis ça, vous avez fait ça combien de temps, ça, ce type de série-là, de docu-série?
Attends, elle a eu 2 saisons, cette série-là. Puis je fais juste une parenthèse, c'est tellement enrichissant pour nous aussi, hein,
Ben, ça,
comme...
vous apprenez en même temps, là.
Ah oui,
C'est...
puis c'est tout le côté humain. C'est comme, j'ai fait 2 séries web sur l'art contemporain qui s'appellent Rats de ville,
Ouais.
qu'on peut voir sur le web, puis ça, c'était génial. Moi, je qui connaissais pas grand-chose sur l'art contemporain, mais c'était Éric Bolduc qui menait le projet, qui était animateur. Mais on a fait une série à Québec puis une série à Montréal. Mais c'était extraordinaire parce qu'on rencontrait les artistes et ils nous parlaient de leur processus créatif et tout ça. C'est génial, ça.
Mais je vais vous avouer quelque chose, M. Hamilton. T'sais, les gens pensent que comme vous devez penser que je vous invite parce que vous êtes bon. Non, non, moi, je veux juste en savoir plus sur votre métier. T'sais, parce que quand vous me
Oui.
donnez toutes ces informations-là, j'ai de l'air plus intelligent après ça quand je le répète. T'sais. Puis c'est la même affaire à chaque soir. J'utilise les ressources que j'ai, je les présente, puis j'apprends en même temps. Non, mais c'est une blague, mais faire ces métiers-là qui nous inspirent, puis qui nous amènent constamment à regarder, tu sais, à voir autre chose. Puis, tu sais, on a un apprentissage scolaire, bien entendu, la matière et tout ça, mais dans la vie en général, en savoir plus sur les autres métiers, de quelle façon ces gens-là pensent, pourquoi telle ou telle décision est prise, qu'est-ce qui fait en sorte que telle ou telle affaire ne fonctionne pas. Je trouve tellement que c'est enrichissant. Puis votre monde est un merveilleux monde où à chaque fois, à chaque journée, c'est une journée qui peut être différente aussi.
Oui, puis c'est génial parce que là, ça continue encore, mais là, maintenant, je suis plus en communication. Tu sais, je donne des formations, je coach des gens en prise de parole, en storytelling, en charisme et tout ça.
En charisme! Et vous êtes un déverrouilleur de charisme!
Ben oui! C'est tellement essentiel le charisme et le body language.
Hein. Bon, ben rentrons là-dedans, M. André Hamilton. Parlons du charisme, parce que ça fait partie de votre métier présentement. Vous avez une école de communication, c'est andréhamilton.ca pour les gens qui veulent plus de détails. Nous, à Québec, on avait une politicienne et à un moment donné, on a vu, avec la commission du droit à l'information, là, on a vu que cette politicienne-là avait embauché une déverrouilleuse de charisme. Et vous comprendrez que dans les médias, nous, on s'est amusé un peu avec ça, là, tu sais, déverrouilleur de charisme, ça existe-tu vraiment? Puis est-ce que le charisme, c'est quelque chose d'inné chez une personne ou c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Tu sais, on se posait une multitude de questions, mais on avait bien rigolé, puis Mme Guérette, encore à ce jour, se fait agacer une fois de temps en temps avec sa fameuse déverrouilleuse de charisme. Mais comment on fait en tant que professeur pour aider quelqu'un qui n'en a pas pantoute à en avoir un petit peu?
Ben oui, mais en passant, là, moi, il y a le côté authentique, hein, vraiment, parce que c'est souvent, on peut mélanger ça avec la séduction, alors que il y a une grande différence. La séduction, on va séduire les gens, mais c'est souvent à notre profit. Alors que le charisme, pour moi, c'est de faire briller l'autre. Mais ça peut se développer. Si je veux dire, juste écouter l'autre déjà, vraiment l'écouter, être là à 100%. Tu sais, on parlait de Jeannette Bertrand un petit peu avant.
Avant l'émission, présente.
Tu sais, moi, je l'ai eu comme professeur, puis comment elle est présente 100% là pour toi, puis à te faire ressentir comme t'es la personne la plus importante, en ce moment-là, ça fait partie déjà du charisme.
Ouais.
C'est s'oublier, c'est faire taire un peu notre ego et vraiment se consacrer à l'autre personne. Puis moi, je travaille aussi avec des conférenciers professionnels, puis des fois, ils l'oublient un peu, mais tu sais, on est au service un peu, tu sais, on est au service du public.
Ben, carrément, ça, c'est la base même de notre travail. On travaille pour notre auditoire.
Absolument. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, le charisme, c'est être présent, c'est le regard, c'est le sourire, c'est les pauses aussi.
Mais oui, puis je suis entièrement d'accord avec vous, mais tu sais, moi, l'authenticité est hyper importante. Puis je sais pas pourquoi les médias, à un moment donné, nous ont apporté là. Je trouve que là, ça commence à changer un peu, mais il y avait constamment des gens qui étaient toujours parfaits à la télévision. Il y avait constamment des animateurs ou des animatrices qui étaient parfaits. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est parce que c'est la fille d'eux ou le fils d'eux? Mais il y a une nouvelle génération d'animateurs qui sont arrivés que tu disais, ben je me reconnais en cette personne-là, puis je vais vous donner un nom. Ben je vais vous en donner deux, en fait. Véronique Cloutier, puis Julie Snyder, qui sont des filles qui s'acceptent dans leur imperfection, des filles avec qui tout le monde peut discuter, des filles qui ne semblent pas être très prétentieuses. Puis, il y en avait d'autres qui arrivaient à côté, qui étaient capables de parler avec un anglais là, impeccable, puis qui arrivaient, étaient parfaits. Mais l'image ne passait pas. Parce qu'il était... Puis ça m'a dit, moi, M. Hamilton, ce que ça me dit, c'est que les gens aiment bien voir des gens qui leur ressemblent à la télé. Ils aiment bien savoir qu'avec toi, ben, je pourrais faire un Québec-Montréal puis avoir du bon temps avec toi parce que tu es un peu comme moi. Je pense un peu comme toi, puis tu n'es pas parfait, puis je ne suis pas parfait, puis je ne demande pas à ce que personne soit parfait. Fait que cette catégorie de personnes-là est arrivée dans le décor médiatique dans les dernières décennies. Puis je trouve ça rafraîchissant d'avoir des gens qui sont
Oui.
imparfaits. Tu sais, il y en a d'autres, moi, que je trouve exceptionnels. Puis là, ben, je vais nommer un nom. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer là-dedans, bien entendu. Mais moi, il y a un artiste que je trouve au Québec qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui est capable autant d'intéresser les jeunes que les moins jeunes. Son nom, c'est Grégory Charles.
Oui.
Grégory Charles, à mes yeux, à moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est tout un artiste. Mais quand il fait de la télé, il est tellement parfait que les gens ne se reconnaissent pas en lui. Puis
C'est
ça fait en
intéressant,
sorte
ça.
qu'il n'y a pas les contrats qu'il devrait avoir, Grégory Charles. Il est capable d'avoir des contrats parce qu'il s'y trouve lui-même, mais il n'y a pas personne qui va dire hey, on va prendre une émission de variété, puis on va prendre Grégory Charles. Personne ne pense à lui alors qu'il est exceptionnel à mes yeux à moi, mais je comprends pourquoi. Il est tellement parfait, il n'y a personne qui aime ça, les gens parfaits.
Non, ben non, tu as vraiment raison. Puis c'est drôle parce que moi, je travaille avec des gens. Tu sais, on aime voir un humain devant nous,
Exact.
quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui peut faire des erreurs. Tu sais, je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, puis d'avoir des trous de mémoire.
Ben oui.
Je pense que qu'est-ce qu'on retient, c'est souvent l'attitude de la personne. Moi, c'est qui va rester positive, etc. Moi, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé plein de gaffes, moi, quand je donnais des conférences ou des formations. Mais tu as raison, parce qu'on s'identifie à la personne qui est
Ouais.
devant. Puis plus que tu es humain, ben, comme tu dis, ça crée des liens, puis de la chaleur humaine. Puis c'est ça qu'on a besoin. Moi, j'ai travaillé avec un conférencier. Puis sa première mouture de conférence, c'était un copier-coller de son livre. J'ai dit, oui, c'est intéressant, mais je pourrais très bien acheter ton livre, puis ça serait la même chose. Ajoute-moi ta facette humaine,
Ouais.
raconte-moi des histoires, raconte-moi des anecdotes, donne-moi des exemples qui sont en dehors de ton livre. Là, c'est là que c'est intéressant. C'est là, parce que c'est une expérience. Un discours, une conférence, être devant les gens, c'est toujours une expérience que les gens vont ressortir.
Ouais. Puis mais le charisme, vous êtes la deuxième personne qui m'en parle. La première étant justement Anne Guérette et le deuxième étant André Hamilton. Pour les gens qui ont un peu de difficulté à apporter leur chaleur puis à être
Oui.
ben, à se faire reconnaître comme quelqu'un de présent puis de souriant puis d'intéressant à jaser, ben c'est ça le charisme. Et puis on peut travailler là-dessus puis apprendre à le
Oui.
développer du moins. Est-ce
Oui.
qu'à un moment donné on vient qu'à Parce que moi, je sais que quand je suis sur scène, c'est-à-dire quand je suis dans mon émission de radio, j'ai l'impression qu'il y a comme des projecteurs, mais dans le fin fond de moi-même, je sais qu'il n'y a personne qui me voit. Mais je sais
Oui.
que je deviens Yann, l'animateur de radio. Je suis pas Yann dans mon quotidien, dans ma vie en général. J'essaie pas de divertir les gens quand je suis chez nous parce que ma blonde m'arracherait la tête. Là, t'sais, si je parlais tout le temps comme si je voulais la divertir, elle me dirait, ben là, buddy, tu peux-tu slacker une note? Mais quand je suis en onde, par exemple, ben je varie le ton. Je m'amuse,
Absolument.
je suis cabotin un peu. Quand je fais des erreurs, ben, on s'amuse avec ça. J'agace un peu mes collègues de travail. Puis, ben, comme on disait, le ton et le rythme aussi, le rythme de la voix change. Fait que, tu sais, on essaie
Oui.
de, oui, d'avoir de l'air un peu charismatique, veux pas, mais ça s'apprend. On peut travailler là-dessus. Donc, pour les hommes et
Absolument.
les femmes d'affaires qui veulent apprendre
Ah.
à jaser avec leurs employés lors des réunions, puis à pas avoir de l'air d'un robot. Mais
Oui.
ce type de travail-là que vous faites peut grandement les aider.
Absolument. Puis moi, j'ai travaillé dernièrement avec un président d'une petite PME. Et c'est à chaque semaine, il fait une rencontre avec les employés. C'est drôle que tu m'en parles. Puis un des employés a dit, hey, t'es vraiment plate, tu sais. Ah, il a vraiment dit ça comme ça. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu dis? Donc, on a travaillé ensemble. Puis souvent, c'est juste quelques trucs qu'il faut juste changer. C'est, oui, on a l'agenda, on a un ordre du jour, mais comme tu dis, là, si tu suis ton ordre du jour, t'es qu'un robot, puis, tu sais, c'est de être, comment je pourrais dire, prendre conscience de ce que tu dis,
Ouais.
l'effet que ça a sur tes employés, tu sais, un peu de chit-chat avant, d'avoir un beau sourire, tu sais, d'enrober ça d'humain,
Être
c'est
humain
là
et
que c'est.
chaleureux, je jasais avec un conférencier,
Oui.
Sylvain Boudreau. Je sais pas si vous connaissez
Oui,
Sylvain, c'est le
oui,
Moi Inc. Puis
oui.
Sylvain, quand je l'ai reçu il y a de ça quelques mois, je lui rappelais que moi, lors, j'ai vécu l'une de ses premières conférences sur le Moi Inc. J'étais dans les restaurations, j'étais très jeune, je ne veux pas vieillir, Sylvain. Il y avait plus de cheveux. Mais j'étais en restauration, puis Sylvain est arrivé, puis il nous a dit, ben, vous savez quoi, quand vous êtes en salle, parce que j'étais serveur, quand vous êtes en salle, dès que vous franchissez les portes de la cuisine, vous rentrez en scène, vous représentez l'entreprise. Absolument. Donc, le sourire dans le visage, la chaleur va faire en sorte que les clients vont accepter que vous arriviez dans leur vie, à leur table, puis de passer Absolument. Un beau moment avec vous autres sans être trop là. Les fois où vous allez être là, ça va être agréable avec ces clients-là. Mais il fallait avoir une certaine chaleur humaine et pas y aller de manière robotique, puis y Absolument. Aller systématiquement. Vous voulez d'autres choses? Je vous amène la facture. Puis Sylvain, sans le savoir nécessairement à ce moment-là, parce qu'il était au début de sa carrière, au début de ses conférences, mais moi, il m'a grandement aidé à la personne que je suis devenu quand je suis devant le public. Parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, je suis dans un studio de radio, mais les projecteurs s'allument. Absolument. Quand les projecteurs s'éteignent, ben, je redeviens Liane qui est plate à la maison. Mais ça, c'est mes enfants qui disent ça. Mais quand je suis en service, ben, j'ai pas le choix. Faut que je sois divertissant. Ouais. Faut que je sois Absolument. Agréable avec les gens. Donc, c'est la même chose pour les patrons d'entreprise. Quand ils sont dans leur rencontre avec leurs employés, s'ils veulent que ce soit dynamique, ces rencontres-là, que les employés décident de parler parce que le patron, il a le sourire d'en face, il n'y a pas une face de bœuf. Ben, ça peut aider, ce fameux déverrouillage de charisme-là.
Absolument, absolument. Mais tu sais, tu parlais, c'est une performance, hein? C'est une prestation.
Ouais.
On vous regarde plus qu'on vous écoute, hein? Et c'est une prestation. Puis moi, c'est vraiment un devoir. Moi, c'est comme, regarde, cette semaine, j'ai formé les accompagnateurs de voyage qui donnent aussi des conférences à Traditour. Puis je leur disais que, moi, avant de donner ma formation, probablement, je fais toujours du réchauffement avant chaque formation. Avant notre podcast d'aujourd'hui, je fais des réchauffements avec ma voix, j'augmente mon énergie parce que c'est une prestation. C'est comme, on est comme un comédien qui monte sur scène.
Ouais.
Et je me vide, ce qui est important aussi, je me vide la tête de tous les autres trucs. Peut-être que j'ai des appels importants, peut-être que j'ai une pile de dossiers. Je me vide la tête complètement, je me mets vraiment à 100% et j'embarque sur scène. Puis la scène commence quand tu arrives dans le parking, parce que tu ne sais pas qui peut te regarder, tu ne sais pas qui tu peux croiser, etc. Puis c'est essentiel de monter cette énergie-là parce que les gens ont besoin de cette énergie-là, de cet échange-là.
Parce que la communication, il y a une communication verbale aussi. Bon, on parlait de charisme tantôt, mais il y a une communication physique aussi. Des gens qui ont beau avoir une belle façon de dire les choses, si c'est des gens qui ont le dos rond, qui ont de l'air fatigués, qui ont de l'air brûlés, on dirait, bon, au début, on est comme porté à essayer de les aider, ces gens-là, mais si c'est pour négocier des milliers de dollars avec ces gens-là, tu te disais, t'es peu, là, c'est parce qu'il y a de l'air déjà en avoir très lourd sur les épaules, là, je vais-tu donner plus de contrats à ce gars-là? Il y a de l'air brûlé raide. Mais, tu sais, on en rit, mais ça arrive tellement régulièrement qu'on rencontre des gens qui, tu sais, c'est des gens qui crient, mais ils ont des grosses business, mais ils arrivent, ils ont les épaules basses, puis ils veulent te parler, puis ils veulent passer leur message, mais le courant passe pas en raison de la communication physique.
Absolument.
Moi,
Absolument.
Je regarde l'individu, puis je sens qu'il n'y a pas de l'air bien.
Absolument. Mon Dieu, tu tombes vraiment... t'as une corde sensible.
J'aurais pu faire de la radio. J'aurais pu faire de la radio.
Ben oui.
Ouais, je suis observateur.
Mais tu sais que c'est même... ça prend même pas une seconde. Il y a trois réactions possibles. Hein. Tu vois la personne, juste par son physique, puis qui est plus que 80% de sa communication, il y a trois réactions possibles. Soit que tu parlais de dos courbé, si quelqu'un est droit et tout ça, puis il a un beau sourire, une bonne démarche, ben tu le trouves sympathique, tu vas le trouver ouvert, tu vas le trouver accueillant. Si tu es déjà positif. L'autre réaction, c'est quelqu'un qui est courbé, qui a la face très sérieuse et tout ça, ben tu le trouves négatif, fermé, sais, tu vas avoir moins tendance à l'écouter.
Puis lui, il vient
puis
pour
la
avoir. Puis lui, il vient pour avoir le contrat du party d'employé que tu veux faire.
C'est ça.
Mais il y a de l'air d'un gars à bout, là.
Ben oui, puis la troisième réaction, c'est quelqu'un qui est neutre. Tu sais, qui est monotone, qui a l'air gris. Tu sais, t'as même pas envie de lever tes yeux de ton cellulaire. Mais ça se joue, c'est une seconde. Tu sais, c'est... Puis quand tu vas ouvrir la bouche, ben ça va juste confirmer ce que t'as déjà pensé de la personne. C'est ça, là. Donc, il faut travailler, c'est ça, là. Quand je dis qu'il faut se réchauffer, monter de l'énergie, c'est ça. Puis être complètement à 100%, là, ça, c'est la clé.
Puis oui. La préparation dans votre domaine, en communication, je parlais avec, je pense que c'est, des fois, je suis un peu mélangé avec les podcasts que je fais, j'en fais tellement souvent. Je pense que c'est hier ou avant-hier, je parlais avec François Lambert, le dragon, François Lambert, l'homme d'affaires, oui. Qu'on voit régulièrement à télé et tout ça, puis je lui disais à quel oui. point il avait l'air d'un gars qui s'aimait beaucoup. Tu sais, j'ai pas dit ça de cette façon-là, bien entendu, mais j'ai dit, bon, quand il dit quelque chose, François Lambert, il a le chest bombé, mm-hmm. il est très... il a de l'air très à son affaire puis très convaincu. Mm-hmm. Puis il m'a donné une partie de sa recette, François Lambert. Il m'a dit, Yann, c'est vrai que ça a l'air de ça, mais en dedans de moi, je doute constamment. Ce qui fait en sorte que comme je doute, ben je m'arme, dans le sens de armer, là, je m'arme pour que lorsque je fais une prise de parole, je sois prêt à donner l'information que je veux donner ou à donner mon opinion avec puis appuyer sur des faits. Alors que...
Absolument.
Donc, lui me dit, moi, je suis constamment incertain, mais quand il se présente devant les gens, il a de l'air du gars le plus convaincu de la Terre.
Oui, oui. Hein?
Donc, il y a une préparation à faire aussi quand on veut entrer sur scène. Je ne sais pas, moi, on est propriétaire d'une entreprise, on rentre dans une réunion, on rentre en scène, en fait. Il y a une préparation à faire, pas arriver comme dépareillé, puis brûlé peut-être avec nos histoires de la veille, puis on ramène du travail, on amène des fois des mauvaises tensions qu'on a eues avec notre conjointe la veille, puis on arrive au bureau à réunion. Ça se peut que les employés vont peut-être plus se concentrer sur ce qu'on a de l'air plutôt que sur quoi on a de quoi à dire, tu sais.
Absolument. Mais la préparation, c'est important. La préparation, je veux dire, au niveau de ton contenu, tu sais, reviser un peu tes notes et un peu de structure, c'est le fun, tu sais. La préparation physique, comme on disait, là, être droit puis un beau sourire. Préparation mentale, moi, c'est 100%. T'es là à 100%, là. Tu sais, c'est là. Et... c'est ça qui est génial, c'est quand tu te prépares et tout ça, ben t'es là et moi je trouve là, j'aime bien l'image du pilote d'avion. Tu sais souvent on attend à l'aéroport, t'es dans la salle d'attente. Si tu vois le pilote d'avion qui arrive là avec la casquette toute croche, puis ses petites ailes là toutes croches sur son veston, puis tu sais, je sais pas, il échappe son dossier, là, tu vas dire, oh boy, OK, là, c'est lui mon pilote. Ben, c'est ça. L'image qu'on projette de nous, si on a l'air convaincu, hein, puis tu sais que, déjà, aller devant les gens, moi, j'arrive souvent bien de bonne heure dans une salle pour avoir l'occasion de parler un peu avec des gens, de faire des premiers contacts. Déjà là, tu sais, il y a une crédibilité qui se forme, il y a une chaleur humaine et tout ça, là. Ça, c'est hyper important.
Puis est-ce que vous faites, quand vous avez les élèves avec vous pour les coacher en communication, est-ce que ces gens-là, advenant le cas où c'est la prise de parole devant une salle, est-ce que ces gens-là doivent faire de la visualisation? Est-ce que vous les préparez à ce qu'il y a des centaines de yeux qui les regardent en même temps? La mère de mes gars, moi, c'est son métier de faire la prise de parole. Elle anime, peut animer des congrès pour Desjardins devant des milliers de personnes. Oui. Pour elle, c'est un lundi, OK? Mais si vous mettez M. Hamilton devant des milliers de personnes, moi, je fonds, là. Parce que, je veux dire, c'est beaucoup trop pour moi. Tu sais, je suis capable de jaser devant une classe d'élèves ou à leur parler de mon métier et tout ça quand ils sont 10, 15, 20. Mais quand c'est des milliers de personnes, moi, j'en perds connaissance. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'à un moment donné, elle fait de la visualisation. Elle va voir la salle, comme vous m'avez dit, puis elle se l'imagine pleine. Puis elle révise dans sa tête tous les sujets qu'elle va aborder. Puis une fois que la salle est pleine, ben c'est un peu comme dans sa visualisation. Puis c'est peut-être un peu moins prenant au niveau du cœur quand vous rentrez.
Absolument. Non, non, mais c'est génial comme truc. Oui, visualiser la salle, mais moi, je visualise les gens qui me regardent, puis qu'ils sourient, puis qu'ils hochent la tête, puis que, tu sais, puis je me visualise moi-même sur scène. Et je me vois qui est à l'aise, qui bouge bien, qui a un beau sourire, etc. Et un bon truc aussi, c'est, bon, moi, je pense que le maximum était 500 personnes, je pense. Si on peut arriver un peu d'avance, aller sur la scène, voir de quoi que ça... C'est quoi mon point de vue? Mais tu sais, tantôt, tu parlais de préparation. Tu sais, la technique, là, qu'elle soit déjà toute bien, tu sais, bien settelée, bien préparée. Moi, j'ai toujours des fils de plus. Moi, j'ai mes présentations sur mon ordi, sur une carte, deux clés USB. Tu sais, pour m'enlever ce stress-là déjà. Et après, mais la salle, même si elle est grande, parce que c'est drôle, parce que je viens juste de travailler avec une auteure, coach conférencière, et qui était plus habituée à des petits groupes de 12-15, puis là, elle faisait, je pense, c'était 150 ou 200. Mais j'ai dit, tu sépares ta salle en petits groupes de 10-12, hein, un petit groupe de 10-12 en avant, à gauche, à droite, dans le fond, dans le milieu, etc. Et tu coupes ta salle comme ça. Mais tu sais qu'une salle, quand tu as 500 personnes, oh, l'énergie que tu reçois, oh, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est le fun. J'aime mieux 500 personnes. J'ai déjà fait des trucs en virtuel qui étaient deux, dont une personne qui était plus ou moins là. Ça fait 50% de ton public qui embarque pas. Ça, c'est plus dur.
Le storytelling, c'est quelque chose
Oui.
que j'entends depuis quelques années. Ça fait pas très longtemps que j'entends ce mot-là, le
Oui.
storytelling, mais de plus en plus, ça semble prendre place en communication, le fameux storytelling. Je sais que mes patrons ici à la station sont allés rencontrer un expert en storytelling
Oui.
qui a expliqué c'était quoi exactement que le storytelling. Vous faites des conférences et des formations sur le
Oui.
storytelling.
Oui, absolument. L'art de raconter des histoires. Mais tu as raison. Mais moi, la première formation que j'ai donnée de storytelling, je pense que ça fait plus de 12 ans. À l'École des entrepreneurs du Québec, je faisais la formation lancement d'entreprise et vente conseil. Puis je parlais, je faisais, parce que moi, je suis un scénariste. Donc, c'est storytelling, scénarisation,
C'est un
c'est les
naturel.
mêmes,
Ouais.
oui, c'est les mêmes bases. Puis les formateurs, ils disaient, ouais, tu parles beaucoup de storytelling, peux-tu nous donner une formation? Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à donner mes formations puis mes conférences. Mais la storytelling, moi, j'ai aidé, mon Dieu, j'ai dû aider des centaines et des centaines de gestionnaires, d'entrepreneurs, entre autres, à raconter leur histoire ou à raconter l'histoire de leurs clients pour être encore plus engageant. Parce que c'est ça, le storytelling. C'est des histoires, c'est pas nouveau comme tu dis là. C'est les mêmes bases, c'est
Ouais.
Aristote, Shakespeare, ça ressemble tout. T'sais. Mais on s'est aperçu que si on fait passer notre message d'un format d'histoire ou qu'il y a des éléments de storytelling, c'est beaucoup plus engageant.
Okay. Mais est-ce que je peux avoir des exemples concrets de storytelling? Je sais pas, moi, quelqu'un qui fait de la vente, là, il fait
Oui.
quoi? Quand il vous arrive puis il dit, André, moi, j'aimerais en savoir plus sur ton storytelling, ça pourrait
Oui.
m'aider avec mon pitch de vente. Vous lui donnez quoi comme conseil? C'est quoi exactement le storytelling? Je comprends que c'est raconter une histoire, mais il commence par quoi? T'sais, est-ce que, bon, il était une fois un vendeur qui vendait un service à son client? T'sais, comment ça fonctionne?
C'est super bon comme question. Mais tu sais que la meilleure histoire, c'est celle de ton client. C'est soit il y a deux choses, OK? On appelle ça le scénario rêvé. Ou le scénario classique, là, c'est tu fais rêver ton client, OK? Donc, je vais te donner un exemple d'un concessionnaire auto.
OK.
Ben, voilà quelques années, moi, j'ai changé, bon, je magasinais pour une auto et tout ça. Puis je vois j'ai un concessionnaire, et lui, il avait vraiment la bonne histoire à me raconter, OK? Premièrement, il m'a demandé, Ben, pourquoi vous voulez acheter? Ben, moi, j'adore les Toyota Corolla. Je fais de la publicité, mais ben, dans ma famille, on a toujours acheté. C'est mes parents ont toujours acheté une Toyota Corolla et tout ça. Donc, maintenant, pourquoi? Je dis, ben, mes parents ont toujours acheté ça, etc. Tu sais. Déjà là, c'est, je suis, moi, je parle déjà dans mes souvenirs. OK, on crée des liens. Puis là, il m'a demandé, mais pourquoi, c'est quoi que vous allez faire avec votre voiture? Est-ce que vous allez vous voyager ou c'est plus pour le travail? Puis je lui ai dit, moi, j'aime bien voyager, j'aime ça faire du camping et tout ça. Puis là, il m'a ouvert la valise, puis il a dit, gars, il y a beaucoup d'espace. Puis là, on a parlé de bicyclette. Là, il m'a créé des histoires. Moi, j'ai créé mon histoire. Je me suis revu à faire du camping. Et l'auto était au centre de mon histoire. Donc, c'est comme ça, en faisant parler ton client, en le mettant dans des histoires, etc., on peut le faire rêver, on peut créer des histoires où ton client, si on peut faire une liste des problèmes des obstacles que ton client rencontre et ton produit ou ton service va l'aider à trouver la solution, à avoir une fin heureuse, ben c'est comme ça qu'on fait des histoires comme ça, avec le storytelling, pour les vendeurs.
OK, mais ça peut
Oui.
s'appliquer à tous les autres champs d'expertise qui existent, le storytelling. Ça peut être, exemple, bon, ben, vous faites, si un conférencier veut agrandir son auditoire, c'est un conférencier qui parle à 30, 50 personnes, du jour au lendemain, comme vous avez dit tout à l'heure, le conférencier est rendu avec une salle à 500, ben, ça s'apprend tout ça, là.
Ah oui, absolument. Puis tu sais que un conférencier, c'est plus, il va raconter un peu. François Lambert, il est très bon aussi. Je veux dire, Serge Beauchemin est excellent. Puis les histoires, ben, ça sert d'exemple. Souvent, on raconte des petites anecdotes et tout ça. Et ça sert à, parce que moi, j'ai travaillé avec une présidente d'une association de femmes entrepreneurs, puis il y avait des beaux chiffres, là. Tu sais, on a aidé 20 000 entrepreneurs, on a un taux de succès de, je me rappelle plus, 98 %. C'est des beaux chiffres, mais ça nous fait pas vibrer, ça. Donc, j'ai dit, regarde, on va travailler. As-tu un exemple concret d'une entrepreneur qui a réussi? Elle me dit, oui. Puis là, elle m'a raconté, ah, oh, c'est Isabelle, elle est arrivée à mon bureau à tel moment, elle voulait ouvrir une entreprise dans le Bas-Saint-Laurent qui allait exploiter les richesses, les algues et tout ça. Donc, on a créé cette histoire-là. Donc, si moi j'entends ça, je peux m'identifier, ça me fait vivre. Parce que quand on raconte une histoire, on la vit en même temps. Puis, la chose extraordinaire, c'est quand, si disons que tu me parles de faits et de chiffres, ça excite deux parties de mon cerveau. Si tu me racontes une histoire, ça excite six parties de mon cerveau. Entre autres, je vais développer de l'hormone du bonheur. Donc, tu me fais du bien, tu me fais plaisir. Puis c'est plus, on mémorise beaucoup plus une histoire que juste des faits et des chiffres.
Ah oui, avec le storytelling, on mémorise plus. Si on est client de cette personne-là qui nous fait du storytelling, on a l'impression d'en savoir peut-être plus, on retient parce qu'on est capable
Absolument.
de greffer une histoire à tout ça.
Oui, ben l'histoire, c'est dans le fond, si tu peux avoir des chiffres là-dedans, puis tu sais, je veux dire, ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être une leçon, etc. C'est ça qui est génial. Tu sais, je veux dire, aussi, on peut travailler le parcours de l'entrepreneur, un peu une forme d'histoire. Tu sais, je veux dire, avec un début, un milieu, une fin, avec les plus beaux moments de sa vie, des moments charnières. Puis là, ça se lit comme une histoire un peu. C'est ça qui est extraordinaire. Puis ça, c'est le fun, parce que là, c'est individuel, c'est personnalisé. Puis là, c'est là que tu fais vraiment des contacts avec ta clientèle.
La communication, en fait, c'est une porte d'entrée. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on a une présentation à faire ou qu'on a un service ou un produit à
Ah
vendre,
oui.
c'est carrément une porte d'entrée. À partir du moment où on est bien préparé, ça revient un peu à ce que François Lambert nous disait. À partir du moment où on a beau être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, si on est bien préparé, qu'on a nos bons outils pour se préparer, puis par la suite, on arrive, on ouvre la porte, ben on a plus de
Absolument.
chances de réussir ce qu'on veut faire que si on ne l'est pas préparé pantoute, puis on se dit, bon là, je m'en vais encore à l'abattoir aujourd'hui. Parce qu'il y en a de ce type de personnes-là, hein. Moi, je les trouve
Oui.
extrêmement courageux, mais des gens qui arrivent dans des endroits, sont pas préparés pantoute, puis ils se disent, advienne que pourra. Sauf que ouais. Si vous voulez avoir des performances, vous êtes employé puis vous devez vendre des produits, le advienne que pourra, t'sais, votre moyenne au bâton va peut-être être un peu plus basse que si vous vous préparez puis vous vous entraînez à devenir meilleur, de meilleur communicateur du moins.
Ah oui, absolument. Oui, puis je pense que c'est Brian Tracy qui est un conférencier, un auteur américain qui disait que le succès dépend à 85% de ta qualité de la communication. Puis tout est communication. Tu sais, tu prends le téléphone, tu rencontres quelqu'un, si on communique, c'est tout le temps, tout le temps.
Puis on devient accro des fois à de bons communicateurs. Ça me fait rire parce que c'est vraiment une anecdote personnelle que j'ai. L'endroit où je vais, c'est un fast-food le matin chercher mon café. Des fois, à fin de semaine, je m'en vais chercher mon petit McMuffin. Mais ils ont embauché des gens qui viennent du Guatemala, du Mexique, puis ils ont embauché des Philippins aussi. Et juste le fait, des fois j'ai le choix, là. Je veux dire, j'ai plein de petits fast-food qui peuvent me donner mon café autour de où j'habite. Des fois j'ai le choix, mais je vais à ce restaurant-là parce que je veux entendre le fameux bonjour, bonjour de la petite madame qui me vend mon café. Elle est tellement heureuse, elle est tellement souriante. Elle sait pas qu'elle m'attire avec son bonjour, mais je me dis, je vais continuer d'aller là tant aussi longtemps qu'elle est là. Ça a fait la différence.
Absolument.
Puis si cette dame-là était payée au client, elle serait encore plus payée parce que je suis pas mal persuadé que je suis pas le seul, tu sais. C'est mon petit rayon de soleil du matin, cette dame-là. Elle est super heureuse de travailler dans ce restaurant-là puis de livrer le café chaque matin au client qui passe dans le service au volant. La communication est importante. Puis je pense qu'il y a des gens qui la prennent pas assez en considération. On va faire une courte pause, André, si tu le veux bien. Je rappelle aux auditeurs qu'on est avec André Hamilton, qui est un coach en communication. Je vais vous donner son site web maintenant, andréhamilton.ca, andréhamilton.ca pour avoir accès à tous ses services. Marceau le soir. Avec André Hamilton, qui est un coach en communication. Monsieur Hamilton, c'est un plaisir de jaser avec vous depuis le début de l'émission. J'apprends plein de choses, puis en même temps, il y a des choses que j'avais l'impression de savoir que vous me confirmez. puis pendant la pause, on parlait, vous et moi, des fameux politiciens. Tu sais, il y a une job de communication au niveau des politiciens aussi. Tu sais, moi, j'ai rencontré une fois Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis j'ai dit en ondes à Paul Saint-Pierre Plamondon, ça c'était avant que ça soit très favorable pour lui, les sondages, j'ai dit à Paul Saint-Pierre Plamondon, je suis persuadé qu'un jour, vous serez premier ministre du Québec. Et il y a des amis dans les médias, on se coltaille tout le temps un peu plus, il y a des amis qui ont dit, on peut pas croire que tu as dit ça à Paul Saint-Pierre Plamondon, je veux dire, le PQ, il y a 3 députés, peut-être même 4, on peut pas croire que tu y as dit ça, ça n'a pas de bon sens, tu vas perdre ta carrière radio. Et finalement, après quelques semaines, j'ai vu les intentions de vote monter, grimper avec les différents sondages. Pourquoi j'avais dit ça à Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que je sentais que chez lui, on pouvait peut-être retrouver des éléments qui plairaient à une multitude de Québécois. Puis je vais vous le dire tout de suite, moi, je ne suis pas parti Québécois, pantoute, mais j'avais pas le choix de lui dire parce que je le ressentais. Ce gars-là avait un naturel, avait une certaine aisance, démontrait une ouverture à l'écoute des autres. Quand les autres amenaient certains points, il pouvait être favorable ou non, mais il disait pourquoi il était peut-être pas favorable aux points qu'on lui apportait. Puis ce genre de politicien-là, je trouve que ça manque beaucoup actuellement en politique. Trop souvent, on a les vieux politiciens qui, eux autres, non, c'est ça que j'ai décidé, puis c'est ça qu'on va faire. Donc, des gens qui donnent l'impression d'être extrêmement déterminés, mais très têtus aussi. Puis je pense qu'aujourd'hui, en 2024, l'ouverture chez nos politiciens, c'est quelque chose qui est très apprécié. Puis du moins, c'est ce que j'avais vu chez Paul Saint-Pierre Plamondon à l'époque.
Oui, mais l'ouverture, puis qu'on peut les approcher, puis qu'ils vont nous écouter. C'est ça, je pense, la différence. C'est ça, là.
Mais ça fait
une différence. On en revient aux communications.
Oui. Souvent, on met le face sur des pancartes, puis on se dit, mais pourquoi on met des faces et pancartes? Ben parce qu'on veut voir le sourire de la personne. On veut. De quoi a de l'air cette personne-là? As-tu de l'air d'une personne gentille ou méchante? T'sais? C'est pas vrai que tout le monde lit les programmes des différents partis, puis c'est pas vrai que tout le monde connaît la personne qui se présente. Des fois, ils vont dire,
Non.
ben, je vais voter pour lui parce qu'il est dans telle ou telle équipe. Mais des fois, ça va juste être la présentation visuelle. C'est ça aussi de la communication. Puis le
Oui.
politicien, quand on le rencontre au IGA, puis il nous serre la main, il nous regarde dans les yeux, puis il fait un peu comme Mme Bertrand, Jeannette Bertrand, quand je l'ai
Oui.
rencontrée. Elle te donne l'impression que tu es le seul et unique être humain devant elle, puis que tu es important à ses yeux. Des politiciens comme ça, on en veut plus. Je peux vous donner un autre nom, Jean Charest. Jean Charest, là, M. Hamilton, vous allez dire, oh, il utilise des gros mots. Mais moi, Jean Charest, je n'étais pas capable de le sentir à travers la télé. Je n'étais pas capable. Et pourtant, quand j'ai rencontré Jean Charest en personne, c'est un charmeur de serpent, là. Je suis devenu son meilleur ami. Il était super sympathique. Et là, j'ai compris le phénomène Jean Charest parce que lui te donnait la main, te regardait dans les yeux, se souvenait de ton prénom, disait régulièrement ton prénom lorsqu'il te parlait. Donc, André, tu sais, André, André, André. Donc, tu sais, c'est la première chose qu'on a entendue, notre prénom, hein? Donc,
Oui.
ça peut pas être négatif. Donc, Jean Charest était venu me chercher avec ses aptitudes en communication. Alors qu'honnêtement, M. Hamilton, tu sais, je le regardais à la télé puis je me disais, hey, sérieux, si je pouvais avoir un marteau pour défoncer ma télé. Mais quand je l'ai rencontré, ça a été totalement le contraire. Fait que, bref, c'est pour vous dire à quel point, des fois, la communication verbale puis la communication physique, elle est extrêmement importante parce que ça peut faire changer l'idée des gens qui sont devant vous. Ça a été
Oui.
un plaisir. Est-ce que vous avez des livres à votre actif sur la communication? Est-ce que ça fait
Eh
partie de vos
non,
objectifs?
mais j'ai un projet là, sur le storytelling et la prise de parole, là.
Ben
C'est
oui.
juste le temps qui me manque. Mais
Puis
on va s'asseoir.
des podcasts aussi, vous avez une super de belle voix. Ce serait peut-être
Oui.
intéressant là, à vous entendre en
Oui.
podcast sur différents principes de la communication.
Ben oui, hein, non, ça serait intéressant, ça. Oui, j'y pense aussi. Tu sais, je donne pas mal de formations avec Isarta et tout ça.
Ouais.
Donc, j'essaie de... Non, on jongle avec tout ça. Mais c'est tellement un domaine fascinant, là, la communication, là. J'adore,
Ben, la
j'adore
bonne
ça.
nouvelle, c'est que vous avez de la job jusqu'à votre mort.
Oui. À moins que l'intelligence artificielle prend tout la place, on verra.
Ouais, avez-vous peur de ça pour votre métier avec l'intelligence artificielle? Ça devrait pas.
Peur, non, parce que le progrès, on ne peut pas l'arrêter, hein.
Ouais.
Je pense qu'il faut embarquer, mais ça change énormément
Parce
de
que la
choses.
chaleur humaine ne sera jamais capable de remplacer, d'être remplacée par l'intelligence artificielle. Tu sais,
Ouais, mais
ce qui nous différencie des robots, c'est vraiment ça, cette chaleur humaine-là. Ils vont être capables de nous mimer, mais cette chaleur humaine-là, ou l'âme qu'on a, si on y croit un peu, ils seront pas capables d'imiter ça, là.
Ouais, ben, c'est drôle parce que t'en parles, mais je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant l'humain plus. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui mettait sur ses contenus, puis je pense même un livre, puis il y avait comme une étampe, là, 100% humain, là. Donc, ça avait été fait par la sueur de son front, de façon humaine, sans recours
C'était
à l'intelligence artificielle. Donc,
son
c'était...
marketing.
Oui, c'était vraiment intéressant.
Ben oui.
Mais l'humain, on en revient toujours à l'humain.
Voilà. André Hamilton, c'était un plaisir. On va se reparler probablement dans les prochains mois. Je vous trouve franchement intéressant. Pour les auditeurs qui seraient intéressés par des conférences et des formations, on les envoie sur votre site andréhamilton.ca.
Parfait, merci
On
beaucoup.
s'était dit que j'allais vous tutoyer, puis finalement, je n'ai pas été capable tout au long de l'émission. Enfin, je suis vraiment désolé.
C'est pas grave.
À tous, un excellent week-end. On se reparle lundi prochain à 11 h pour ce qui est de Marceau le midi. Bye bye, merci d'avoir été là.